Vous écoutez
RMC.
8h, très très bon réveil. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal des 10 dans Jean, bonjour Alice.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un stade de foot du Pas-de-Calais frappé par la foudre hier soir et le bilan est lourd. Un jeune entraîneur est mort, un autre est gravement blessé. Pas de passage en force, promet Emmanuel Macron sur la réforme du système électoral qui divise la Nouvelle-Calédonie, à condition que les violences cessent et que les deux parties reprennent le dialogue. Et puis la moitié des maisons françaises sont fissurées, un phénomène qui prend de l'ampleur. Ça concernera les trois quarts d'entre elles d'ici 2050, la faute au dérèglement climatique.
Et puis, notez mon invité à 8h30 pour le face-à-face. Ce sera Sébastien Chenu, pardon, j'oubliais son prénom à l'instant. Sébastien Chenu qui est vice-président du Rassemblement National et vice-président de l'Assemblée Nationale. Sa réaction notamment sur la Nouvelle-Calédonie ou sur le débat hier de Jordan Bardella, la tête de liste du RN avec le Premier ministre. Un homme a donc été tué par la foudre hier soir dans le Pas-de-Calais.
À Courrières, près de Lens, sur le stade Gabriel Péri, où joue le club de la ville qu'entraînait ce jeune père de famille, Jordan. Il avait 31 ans, la foudre ne lui a laissé aucune chance. Deux autres personnes ont été blessées, dont l'une hospitalisée en urgence absolue. Jean-Pierre est l'autre entraîneur du club, il a assisté à toute la scène.
On faisait entraînement et puis le temps commençait à se couvrir, il a commencé à pleuvoir. Donc le coach a dit, les gars, allez, on rentre. Les joueurs sont rentrés, mais nous, les coachs, on est toujours les derniers à rentrer. Donc Jordan, qui a vraiment l'éclair à la montée de son pied jusqu'à la tête. On a appelé les pompiers directement. Ils m'ont dit de le mettre sur le dos. Christophe, le coach, a commencé à faire le massage cardiaque. Et les pompiers sont intervenus après. Mais moi, quand je l'ai vu, il n'y avait pas de pouls et le short brûlé. C'est horrible. C'est un garçon que j'estime comme mon fils. Donc c'est un gros malheur.
Alors comment expliquer cet accident très rare ? Élément de réponse avec Stéphane Schmitt, le spécialiste de ces phénomènes chez Météo Orage.
Dans un stade, un terrain de football, on est très rarement frappé directement par la foudre, mais en fait on subit les conséquences d'un éclair qui va frapper à proximité immédiate d'une victime. Et avec le courant qui va s'écouler dans le sol, eh bien, ça va provoquer en fait une électrisation et donc les joueurs tombent et notamment ces aspects-là sont renforcés par la présence de métal dans leurs chaussures et donc avec un courant électrique qui va générer en fait un arrêt cardiaque ou ces blessures.
8h03 sur RMC, ce n'est pas le Far West. Voilà le dernier avertissement lancé par Emmanuel Macron à la télévision calédonienne avant de quitter l'archipel au terme d'une visite express 17h sur place pour tenter de mettre fin aux tensions qui secouent la Nouvelle-Calédonie depuis plus de 10 jours. Le président qui appelle à la fin des violences et à la reprise du dialogue entre indépendantistes et loyalistes. Condition sine qua non pour mettre en pause la réforme du système électoral qui a mis le feu aux poudres. Il appelle également les deux parties à reprendre les négociations.
Au moment où je vous parle, de par notre Constitution, cette réforme, en effet, pourrait soit être soumise par le président de la République au Congrès, à un vote des 3/5, soit être soumise à la population française, à nos concitoyens, pour un référendum. Mais j'ai senti, entendu comme vous, la farouche opposition, en effet, des indépendantistes à cette question du dégel prise isolément. Et donc, fort de cela, l'engagement que j'ai pris, c'est de dire, moi je m'engage à ne pas passer en force pour essayer pendant quelques semaines de redonner une chance à l'apaisement et au dialogue.
Et on a appris ce matin que l'aéroport de Nouméa restera fermé aux vols commerciaux jusqu'à mardi matin. La Russie reconnaît pour la première fois la responsabilité de l'État islamique dans l'attentat de Moscou qui a fait plus de 140 morts. Il est 8h04, 8 étudiants de Sciences Po Paris poursuivis par la section disciplinaire de l'établissement pour l'organisation d'une conférence pro-Palestine non autorisée durant laquelle une étudiante juive s'est vue refuser l'accès. Décision prise par la direction à la lecture des conclusions de l'enquête ouverte juste après l'événement qui met donc clairement en cause ces 8 étudiants, Amélie Lafchin.
Oui, car en plus d'avoir occupé l'amphithéâtre illégalement, ils ont aussi mis en place un barrage filtrant l'accès, selon l'administrateur Jean Basser, qui s'est confié au journal Le Parisien. D'après les conclusions de l'enquête, des participants ont tenu des propos discriminatoires envers l'Union des étudiants juifs de France. Concernant l'étudiante refoulée, la phrase « ne la laissez pas entrer, c'est une sioniste » a bien été prononcée, selon lui, mais l'auteur n'a pas été identifié. Il y a aussi un discours mettant gravement en cause l'institution, poursuit l'administrateur. Dans son rapport, la cellule interne a recommandé la saisie de la section disciplinaire pour 8 étudiants, des recommandations suivies par l'institution. Ces derniers risquent jusqu'à l'exclusion de l'enseignement supérieur pendant 5 ans.
8h05, trois quarts des maisons françaises pourraient être concernées par le phénomène des fissures d'ici 2050 et c'est déjà le cas pour la moitié d'entre elles. C'est ce que nous apprend ce matin une nouvelle étude de l'association Conséquences, spécialiste en la matière parmi les régions les plus exposées. Le Centre-Val de Loire, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, là où les sols sont argileux, mais la région parisienne n'est pas épargnée. Illustration à Crégy-les-Meaux en Seine-et-Marne avec Inès Zegloul.
Les sols, les façades, les murs qui craquellent.
La fissure, elle va là, elle continue là.
Chez Anne-Marie, au fil des saisons, la maison bouge, elle s'affaisse. Les fissures sont partout, par dizaines.
Il y a de l'air qui rentre particulièrement dans la grande pièce. Et puis, on s'est aperçu que les canalisations des eaux usées étaient abîmées.
Tout Crégy a un problème d'argile. Et effectivement, quelques mètres plus loin, c'est aussi le cauchemar de son voisin Jackie. Un cauchemar qui continue.
Ça a été repris. Sauf que ça s'est refissuré.
Ça s'est refissuré quand ?
Ça s'est refissuré suite aux travaux.
Des premiers travaux indemnisés pour lesquels il a dû batailler. Reconnaissance de catastrophe naturelle d'abord, puis de nombreux passages d'experts, feu vert de l'assurance, en tout 6 ans de tractation.
Il faut énormément de patience. Il reste même pas mal de travail.
Et là, vous en avez encore pour combien de temps de travaux ?
Il y en a pour, je pense, encore un bon mois.
Des procédures interminables. Jackie est devenu maître en la matière.
J'ai des demandes d'aide pour savoir comment il faut procéder. Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de maisons touchées.
Et à Crégy-les-Meaux, c'est une centaine d'habitants qui est concernée pour l'instant.
8h07 ce soir, l'AS Saint-Etienne et Rodez s'affrontent pour tenter une montée en Ligue 1. Coup d'envoi à 20h30. Le vainqueur devra ensuite battre Metz, le barragiste. Et demain, c'est la finale de la Coupe de France, OL-PSG. Mais en raison des Jeux Olympiques et des préparatifs du Stade de France, la rencontre aura lieu hors de la capitale, au stade Pierre-Mauroy à Lille. De quoi faire craindre des débordements, Nicolas Pelletier.
Oui, 30 000 supporters lyonnais et parisiens sont attendus dans le nord de la France demain soir. D'après nos informations, la rencontre est classée 5 sur une échelle de 5 par les services spécialisés. En clair, ce match représente des risques graves de troubles à l'ordre public nécessitant des mesures exceptionnelles. Les autorités auront aussi une attention toute particulière à la finale de la Coupe Gambardella entre Nancy et Marseille, qui aura lieu en levée de rideau de la Coupe de France. L'OM qui entretient une rivalité forte avec les supporters lyonnais et parisiens.
Et Olivier Giroud qui a acté son départ à la retraite, il mettra un terme à sa carrière internationale après l'Euro. Place aux jeunes, dit-il à nos confrères de l'équipe.
Et c'était le journal d'Élise Dangean, il est 8h08.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
C'est le volet répressif de la réponse aux émeutes, les émeutes de l'été dernier. Gabriel Attal annonce une réforme de la justice pour les mineurs. Un jeune de 16 ans pourra désormais aller en comparution immédiate, mais il ne revient pas sur l'excuse de minorité. Dans un instant, le parti pris de la magistrate Béatrice Brugère, elle défend l'idée que les jeunes doivent effectivement pouvoir passer en comparution immédiate et elle nous dit pourquoi dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
8h12 sur RMC.
Le parti pris.
Et on va parler justice des mineurs avec vous, Béatrice Brugère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes magistrate, secrétaire générale d'unité magistrat FO. Votre parti pris ce matin, c'est de dire que, comme l'annonce Gabriel Attal, il faut revoir le fonctionnement de la justice pour les mineurs. Mais alors, la revoir, comment ? On le sait, tout cela, c'est une réponse aussi aux émeutes de juillet dernier dans toute la France. Plusieurs points ont été évoqués pour renforcer ou peut-être durcir la justice des mineurs. On va venir dans un instant sur la question de l'excuse de minorité qui semble ne pas bouger, en tout cas dans la volonté de Gabriel Attal. En revanche, l'idée que les jeunes de 16 à 18 ans puissent paraître en comparution immédiate, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, il fallait avoir 18 ans. Gabriel Attal l'annonce à l'instant. Vous êtes d'accord, Béatrice Brugère ?
Oui, c'est une piste intéressante, mais il faut quand même rappeler que la dernière loi qui concerne la justice des mineurs a supprimé quelque chose qui y ressemblait beaucoup, qui était une présentation immédiate, c'est-à-dire la possibilité pour les magistrats, les juges des enfants, de juger rapidement des mineurs qui avaient commis des faits graves dans des délais qui pouvaient être intéressants pour avoir une réponse immédiate. On a supprimé ça. Bon, maintenant, on réfléchit puisqu'on voit que on n'a pas les outils adaptés, si vous voulez, pour répondre à des violences, puisque là, c'est des violences aggravées, ou en tout cas des faits très graves, pour des mineurs qui sont délinquants d'habitude. Donc oui, moi, je trouve que c'est une bonne proposition parce que notre syndicat l'avait déjà proposé sous Nicole Belloubet. Ce qui est inquiétant, c'est les zigzags permanents. C'est-à-dire qu'on passe son temps à défaire, à refaire, à imaginer par rapport à l'actualité. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème.
Ça, c'est assez saisissant. C'est vrai que je vous avais reçu il y a 3 semaines sur ces points-là. Et j'étais frappée par, ne serait-ce qu'en préparant cette interview, le fait de voir que des lois qui ont été changées, modifiées, et finalement la justice des mineurs, elle entre à peine en application cette nouvelle formule, avec déjà des points dans lesquels on se dit qu'ils ne sont plus adaptés aussi au niveau de violence. Il y a aussi un des points qui est évoqué donc ce matin par le Premier ministre, c'est la question des séjours en foyer. On apprend qu'il y a 3 types de foyers, des foyers de base souple, des foyers en montagne isolés et des foyers quasi pénitentiaires. L'idée, c'est que les jeunes de moins de 18 ans pourront faire des courts séjours de 3 à 7 jours dans des foyers qui sont en fait des foyers assez ouverts. Est-ce que ça sert à quelque chose, ça ?
Je suis pas sûre que l'idée soit si pertinente que ça. Ce qui est intéressant dans le foyer, c'est d'extraire immédiatement un mineur d'un milieu qui soit, très délinquant ou criminogène, si vous voulez. Ou par exemple, je pense pour les mineurs qui sont dans les stupéfiants ou dans des bandes.
Le sortir de ses fréquentations.
Oui,
au fond.
Ça c'est bien, mais bon, pour 3 à 7 jours.
Est-ce que ça suffit ?
Je sais pas. Il faudra encore évaluer ça. J'espère que ce n'est pas juste un effet d'annonce. Nous, notre syndicat avait proposé quelque chose qui nous semblait plus adapté, puisqu'on a réfléchi avec un pédopsychiatre qui s'appelle Maurice Berger, à mettre en place ce qu'on appelle des ultra-courtes peines. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une sanction qui est courte aussi, mais qui est une sanction qui permet...
C'est pas un foyer, c'est une prison. C'est l'idée de la prison pendant 2, 3, 5 jours.
Ça serait jusqu'à entre 7 et 14 jours, qui serait à la fois une sanction et à la fois un moyen d'évaluer vraiment le profil du délinquant de manière pluridisciplinaire, avec toujours cette touche qui est très importante, qui est celle de l'éducatif. Bon, après, on peut appeler les choses un peu différemment. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est que ça soit pas des effets d'annonce, mais qu'il y ait un vrai travail derrière qui soit dit transdisciplinaire, parce que la justice des mineurs, c'est un peu particulier. C'est un temps de formation et c'est donc quelque chose qui doit être fait avec intelligence
vous
et discernement.
Vous disiez d'ailleurs, Béatrice Brugère, qu'il y avait une forme aussi d'idéologie quand même et de dogme sur la justice des mineurs. Est-ce que vous maintenez ça ? Et ça, dans ce cas-là, on a envie de dire, quels que soient les changements de la loi, ceux qui appliquent la justice, c'est-à-dire les juges, s'ils sont dans un état d'esprit qui n'est pas celui du gouvernement aujourd'hui, ça ne changera pas grand-chose sur le terrain ?
Oui, alors tout d'abord, tous les juges des enfants ne sont pas là-dedans.
Mais non,
ce qui est sûr, c'est qu'on a une grille de lecture, vous savez, un peu sortie de guerre de 1945, où il fallait beaucoup protéger, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'enfants.
Plus protéger que punir, quoi.
Oui, mais pourquoi pas. Mais en fait, ce qui est gênant, c'est de ne pas regarder la réalité criminelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est très inquiétant, on a une petite partie de mineurs qui sont ultra violents et sur lesquels il faut avoir une réponse immédiate. Parce que si on n'agit pas tout de suite, c'est trop tard. Par exemple, le profil de Mohamed Amra est assez intéressant sur ce point-là.
Mohamed Amra, donc, qui est en cavale depuis 9 jours et dont on a appris hier que son comportement en prison était quasiment celui de quelqu'un qui continue son business as usual, comme on dit, c'est-à-dire qui continue à mener ses affaires avec 9 téléphones portables, avec une chicha, avec la nourriture livrée en prison.
Oui, et surtout, c'est quelqu'un dont on voit qu'il n'a plus d'empathie, qui est dans la toute-puissance et qui est devenu un espèce d'ultra-violent de caïd. Par exemple, ce profil, c'est un profil qui a commencé vers l'âge de 11-12 ans, qui a fait énormément de faits. Et on voit très bien que notre système n'est pas adapté pour stopper ces parcours de délinquance. Donc, il faut vraiment en urgence réfléchir parce que après, c'est trop tard. Donc, notre justice qui a eu, par exemple, entre les mains des profils comme ça, il y en a plein d'autres d'ailleurs, doit avoir des outils adaptés parce que tous les mineurs ne sont pas comme ça. Mais pour cette petite frange de mineurs, il faut absolument avoir des réponses qui sont adaptées. Et donc, il faut changer notre grille de lecture. Et c'est là où je dis que c'est assez idéologique, parce qu'on voit toujours les mineurs comme un peu des victimes qui sont comme ça de la société ou de leur milieu. Non, on a aussi des mineurs qui sont dans des processus d'ultra-violence qu'il faut stopper.
Merci beaucoup Béatrice Brugère d'avoir fait le point ce matin et défendu votre parti pris. Donc oui, il faut renforcer la justice des mineurs. Vous êtes magistrate, secrétaire générale d'unité magistrat FO. 8h18 sur RMC, Arnaud Demanche.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Bonjour à tous.
Salut Arnaud.
Bonjour. Hello. Vous allez bien?
Ouais.
Vous avez vu la grande nouvelle? Vous avez vu? Anne Hidalgo a annoncé que ça y est, elle va se baigner dans la Seine le 23 juin. Et ben elle va mourir dessous. La Seine, quoi, la Seine. Alors normalement, elle ira avec Laurent Nunez et surtout Emmanuel Macron. Là, ils sont obligés. Ils ont trop dit qu'ils allaient le faire. Ils ont trop frimé. La Seine pourrait être marron avec des poissons crevés et un pH à 232. Ils devraient y aller quand même. Forcé. Emmanuel Macron, il va regarder la Seine en se disant « J'aurais dû laisser gagner Marine il y a 2 ans, en fait. » Même les rats, ils trouvent ça dégueulasse. Poutine, il n'a pas besoin d'envoyer à Macron un slip empoisonné. Notre président, il va s'empoisonner en slip tout seul, comme un grand. Alors justement, vous les voyez dans quelle tenue, vous? Anne Hidalgo, je la vois bien dans un maillot de bain, une pièce, ouais. Un truc à fleurs. Laurent Nunez, je trouve qu'il a une tête à porter des slips de bain. Vous avez la tête de Laurent. Non, mais tu sais, des speedos bleu marine trop petits, avec le bonnet de bain et les lunettes de travers. Il a un peu ce côté-là. Et Macron, bon, je pense qu'il sera, lui, en scaphandre pour se protéger, plus prudent. Ou alors, il va frimer. Il pourra pas s'empêcher de frimer. Il va arriver en maillot rouge, en mode David Hasselhoff dans Alerte à Malibu. Et il va sauter du pont Alexandre III et nous claquer une triple pirouette avec double salto et retournement biphasé qu'il aura appris 8 jours avant et plouf, direct 7,64 du juge rumain, 7,66 du juge albanais. Et après, il y aura l'allocution du 14 juillet qui va être super drôle. Il va se tortiller sur sa chaise parce qu'il aura encore un typhus du 13e siècle avec des croûtes et une infection. Il sera là, française, français, les élections européennes sont... Les élections européennes ont été un enseignement pour notre pays.
Ça va être génial. À propos des Jeux Olympiques, Arnaud, les propriétaires parisiens ne trouvent finalement pas de locataires. Beaucoup comptaient louer leur appartement, mais à des prix visiblement prohibitifs.
Oui, alors l'idée, c'était de louer des studios à 800 balles la nuit à des Chinois innocents. Et ça n'a pas marché. D'ailleurs, c'est la première fois qu'à Paris, on galère à trouver des locataires. D'habitude, t'as 30 postulants pour chaque clapier de 7 mètres carrés. Alors du coup, bah, les proprios cherchent désespérément. On commence à en voir passer dans le métro. Mesdames, messieurs, je m'appelle Paul, je suis propriétaire parisien et je me permets de passer parmi vous car ça fait maintenant 8 mois que je suis sans blaireau. Si vous pouviez m'aider en me louant une pièce ou deux... Ou bien me dépanner d'un locataire bulgare, d'un journaliste panaméen ou d'un amateur de lancer de poids du Kazakhstan. Je vous en remercierai. Je vais maintenant passer parmi vous avec un contrat de bail et un stylo. Soyez généreux. Merci d'avance.
Arnaud, 2 joueurs de l'OM ont été braqués dans leur voiture. Faris Moumbagna et Jean Onana.
Oui, qui a déclaré « Onana marre de se faire agresser. Onana marre de se faire engueuler. » Les Marseillais, pardon, les voleurs voulaient donc prendre les trophées précieux des joueurs marseillais. Du coup, ils sont reparti bredouille. On connaît d'ailleurs le nom du nouvel entraîneur de l'OM pour remplacer Jean-Louis Gasset. Eh bien, ce sera Alain Bauer, notre ami qui vient nous voir de temps en temps. Quand on est joueur de foot, ça donne pas envie de signer à Marseille, tout ça. Hein. Il vaut mieux aller jouer à Brest. Hein. Non seulement ils vont faire la Ligue des Champions, mais en plus, qu'est-ce qui peut arriver de pire à Brest à ta voiture? C'est ça.
Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture.
Oui, c'est les lycéens de Brest, c'est la rue de la soif, ils sont complètement bourrés. Mais bon, comme il pleut tout le temps là-bas, c'est pas grave, la voiture est rincée automatiquement, c'est très bon.
37 listes, Arnaud, ont été déposées en France pour les élections européennes.
Oui, et 37, c'est également le nombre de personnes qui ont l'intention de voter aux élections européennes. Enfin, j'exagère un peu, il y aura leur famille en plus, normalement. Alors, Apolline, vous allez animer lundi soir un grand débat.
Tout à fait.
Avec les principales têtes de liste.
Pas les 37.
Alors, pas les 37, malheureusement. Vous voulez pas demander à Francis Lalanne de venir quand même qu'on rigole un peu, quoi, ce soit sympa. Madame Apolline, les ronds de cuir. Ce serait formidable. Mais c'est l'occasion de jouer à un petit jeu. Votez pour moi. Jingle. Est-ce oui ou non une vraie liste française pour les élections européennes? Alors, à gagner un poster des européennes de Valérie Ayer. Non, mais c'est facile à reconnaître, c'est ceux avec la tête de Gabriel Attal dessus. Alors, vraie liste ou pas vraie liste, c'est parti. La liste La Ruche Citoyenne.
Oh oui.
Oh oui. Oh, c'est oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. On avait Macron président des riches, bah, y a un gars, il veut être président des ruches. Oh. La liste du Parti du Plaisir avec Cindy Lee. Eh ben non.
Oh, c'est pas cette fois. C'est décevant.
La dernière fois, c'est présidentielle 2022.
Oh, c'est vraiment décevant.
La liste Free Palestine.
Oui.
Oui, alors qui fait doublon avec celle de Manon Aubry. Je sais pas comment ils vont se coordonner l'un l'autre. La liste du Parti Pirate.
Oui,
c'est vrai, mais c'est dommage, c'est pas des vrais pirates. Là, c'est pareil, ça aurait eu du style à votre débat, Apolline. Un gars qui arrive avec un perroquet sur l'épaule, un sabre, il faut baisser les impôts.
Johnny Depp, les impôts.
Johnny Depp, les européennes. La liste paix et décroissance.
Non.
Si,
ça pourrait.
Si. Ouais. La liste pain et décroissant.
Non. Ouais. Non,
ça c'est faux.
Dommage.
La liste pain, paix et liberté.
Ça pourrait.
Oui, c'est vrai.
Mais
c'est
une
partie des travailleurs.
D'accord.
La liste du rhum, des femmes et de la bière. C'est la liste de ceux qui ne travaillent pas, ça. La liste La France Libre.
Oui.
Bah oui,
et vous savez laquelle c'est?
Ça mange pas de pain.
Alors, c'est pas la liste de Gaulle, La France Libre, c'est la liste de Gogol, c'est Francis Lalanne et Dieudonné. C'est eux qui font inviter la
France. Je ne crois pas.
Non, hein? Si, c'est vrai.
Ah ouais.
C'est vrai, c'est vrai. Qui a gagné? Vous avez gagné quand même. Je crois que c'est vous qui avez gagné.
J'ai gagné ce magnifique poster.
Magnifique débat.
Elle est prête, elle est prête.
À pas louper.
Je suis au taquet.
Je file. Bon week-end à tout le monde, les Sables d'Olonne ce soir pour ceux qui veulent, et à lundi.
À lundi, à lundi. Alors pour ma part, lundi, je serai effectivement pas là le matin parce que je serai là le soir pour animer le débat. Mais la politique, c'est tout de suite sur RMC et BFM TV. Mon invité, c'est Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, vice-président de l'Assemblée nationale. À tout de suite.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
Merci d'écouter RMC, il est 8h26.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
Placement en foyer pendant une quinzaine de jours dès le premier fait grave. Mise à contribution financière des deux parents pour réparer les dégâts causés par leurs enfants. Voilà deux des mesures dévoilées ce matin par le Premier ministre pour durcir la justice des mineurs en vue du projet de loi promis par le gouvernement après les drames de Montpellier et de Viry-Châtillon. Un homme tué par la foudre hier soir dans le Pas-de-Calais à Courrières près de Lens sur le stade Gabriel Péri où joue le club de la ville qu'entraînait ce jeune père de famille, Jordan. Il avait 31 ans. Deux autres personnes ont été blessées, dont l'une hospitalisée en urgence absolue. Ça n'est pas le Far West. Voilà le dernier message d'avertissement lancé par Emmanuel Macron à la télévision calédonienne avant de quitter l'archipel au terme d'une visite express pour tenter de mettre fin aux tensions qui secouent la Nouvelle-Calédonie depuis plus de 10 jours. Le président qui appelle à la fin des violences et à la reprise du dialogue. Pour la première fois, la Russie reconnaît clairement la responsabilité de l'État islamique dans l'attentat de Moscou qui a fait plus de 140 morts fin mars après avoir d'abord pointé la responsabilité de l'Ukraine. En football, place aux jeunes, dit Olivier Giroud chez nos confrères de l'équipe. Olivier Giroud qui prendra sa retraite internationale après l'Euro. Et ça tombe bien parce que c'est le seul trophée qui manque à son palmarès. Ce soir, match important pour Saint-Etienne et Rodez qui vont s'affronter pour tenter d'arriver jusqu'à Metz et peut-être de monter en Ligue 1. Coup d'envoi à 20h30. Et puis demain, c'est la finale de la Coupe de France au LPSG. Un match à très haut risque selon les autorités qui se jouera au stade Pierre-Mauroy à Lille en présence de 30 000 supporters parisiens et lyonnais.
La météo sur RMC avec BNP Paribas. Avec Tap to Pay sur iPhone et Accepta BNP Paribas, acceptez les paiements sans contact. Il suffit d'un iPhone.
C'était le rappel des titres d'Élise Dangean. Dans un instant, mon invité, c'est Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement National, vice-président de l'Assemblée Nationale. Et ça se passe sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Sébastien Chenu.
Bonjour madame.
Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes député du Nord, vous êtes vice-président du Rassemblement National, vice-président de l'Assemblée Nationale également. De nombreux points à évoquer avec vous et notamment les annonces à l'instant du Premier ministre sur la réforme de la justice des mineurs à la suite des émeutes de juillet dernier. Mais évidemment, je vous pose la question du débat d'hier, ça va ?
Ah mais ça va plutôt bien. Je pense que quand même les
plutôt
Français...
Bien.
Ah bah les Français se sont quand même aperçus qu'ils avaient un vrai Premier ministre possible en France, qui est Jordan Bardella, et qu'ils avaient un personnage qui habitait aujourd'hui une fonction par devoir et qui était plutôt le porte-parole d'une pensée unique, qui est Gabriel Attal.
Vous aviez écrit ça avant le débat ou après le débat ?
Ah non, mais je pense si vous êtes en train de me dire que il y a une différence entre les deux, il y a une vraie différence entre les deux. Jordan Bardella a parlé de la réalité, de la vie des Français, quand Gabriel Attal était, je vous le dis, le porte-parole d'une pensée unique, incapable de se projeter sur l'avenir, d'assumer un bilan. C'est aussi important, un Premier ministre qui n'assumait pas un bilan et qui finalement était le porte-parole, je le dis, d'une pensée unique, mais aussi d'Emmanuel Macron, dans le sens où c'est une espèce d'européisme fanatique qui ne voit l'Europe que comme fédéraliste, contraignante, là où Jordan Bardella la voit comme devant être au service des nations, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui.
Mais en vrai ?
Pourquoi vous me dites, mais en vrai, moi je suis très sincère.
En vrai, vous n'avez pas eu le sentiment hier qu'il y en avait un qui était sur la défensive, Jordan Bardella, un peu plus mécanique, non ?
Ah non, Jordan Bardella est un opposant politique. Donc il s'oppose.
Il n'était pas beaucoup dans l'opposition.
Ah bah écoutez, je pense que sur l'immigration, je pense que sur le pouvoir d'achat, etc. Il a été un opposant et il est un opposant comme nous sommes des opposants à la politique d'Emmanuel Macron. Mais si vous voulez, moi je suis toujours très étonné. Le débat d'abord sur la forme, parce qu'on peut aussi.
De très grande qualité, honnêtement.
Était digne. Et vous aviez là le Premier ministre. Ministre Attal en service commandé, parce qu'il faut aussi voir que Gabriel Attal n'avait pas tellement envie d'y aller, c'est Emmanuel Macron qui l'oblige.
D'être là à reculons.
Et vous aviez le président du premier parti d'opposition qui vous parle de la vie de la France et des Français, de la défense de l'intérêt de la France et des Français, et qui a une vision qui est totalement opposée à la politique qui est menée actuellement par Gabriel Attal. Donc je pense que c'est intéressant de confronter tout ça. Mais moi, j'étais étonné de voir un Premier ministre qui n'assume pas le bilan, qui ment plusieurs fois, c'est sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Fessenheim, que ce soit sur le coût de l'Europe, quand il nous dit formidable, l'Europe nous ramène beaucoup d'argent, alors qu'on sait très bien qu'elle nous coûte beaucoup d'argent.
Vous accusez Gabriel Attal de mentir ?
Oui, par exemple, sur le plan de relance, quand il nous raconte, mais on va toucher beaucoup d'argent, mais enfin, ça nous revient à combien ? Je veux dire, on va toucher 40 milliards, mais on va en payer 67 au bout du compte. Donc, si vous voulez, quand un Premier ministre en est là, pour essayer d'évacuer un bilan, à raconter un peu n'importe quoi face au président du premier parti d'opposition qui fait la course en tête dans les sondages, c'est que vraiment, il y a un problème en Macronie.
En réalité, hier, c'est surtout Gabriel Attal qui a accusé Jordan Bardella de mentir, d'avoir menti avant, de mentir maintenant. Écoutez.
Vous vous opposez à tout ce qu'on fait. Et comme ça, ensuite, vous pourrez dire, si ça n'a pas marché, en fait, on a eu raison de s'opposer.
C'est caricatural.
Pourquoi est-ce que vous étiez pour la sortie de l'euro et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'euro ? Vous étiez pour la sortie de l'Union européenne, maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'Union européenne. Vous étiez pour le Frexit et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'Europe. La question qui se pose, c'est quand est-ce que vous mentiez ? C'était à l'époque ou c'est aujourd'hui ?
Vous voulez répondre à cette question ?
Restez élégant, monsieur Attal.
Est-ce que vous pouvez répondre au moins à cette question ?
Restez élégant, monsieur Attal.
Je vous pose une question.
Vous êtes Premier ministre de la France.
Qu'est-ce que vous répondez à ça, Sébastien Chenu ?
Ça sert à quoi pour Gabriel Attal d'essayer de ramener le débat à un niveau qui n'est pas celui auquel on l'attend ? Si on devait faire la liste des sujets sur lesquels ce gouvernement, Emmanuel Macron et Gabriel Attal, ont reculé, menti, trompé les Français, laissé les Français dans la pauvreté, dans le dénuement, dans l'insécurité, si c'est pour finalement faire le procès de leurs opposants, alors que ce sont eux qui sont aux manettes depuis des années, ce n'est pas le niveau d'un Premier ministre qu'on attend. Ce qu'on attend d'un Premier ministre, c'est qu'il assume un certain nombre de politiques menées et les échecs qui vont avec, et ils sont nombreux, c'est qu'il donne une vision, il ne nous l'a pas donnée. Moi, j'ai l'impression, sincèrement, je vous le dis, que depuis le début de cette campagne européenne, les seuls qui ont un programme, et autour de qui d'ailleurs tout le monde tourne, c'est le Rassemblement National et Jordan Bardella. Nous, quand on parle d'immigration, quand on parle de normes, quand on parle du coût de l'Union européenne, on a un programme, on fait des propositions. La réforme de Schengen, c'est une proposition qu'on fait. Est-ce qu'on entend une seule proposition de nos adversaires? Chez les macronistes, ils gênent en disant plus Europe, plus Europe, plus Europe. Mais il n'y a jamais une proposition. Peut-être si une proposition, c'est que le droit de veto puisse un jour ou l'autre disparaître, le droit de veto de la France. Je le dis parce que c'est le discours de la Sorbonne, c'est une résolution de 2023. Quand Gabriel Attal accuse Jordan Bardella de mentir, il oublie tout ça. Il oublie tout ça. C'est que leur vision, elle est purement fédéraliste, mais il ne l'assume pas devant les Français.
Alors effectivement, sur ce point en particulier, mais on aura l'occasion d'y revenir, et je rappelle ici pour les auditeurs d'RMC et les téléspectateurs de BFM TV que lundi soir à 20h30 sur BFM et RMC, j'animerai avec Maxime Switek ce débat essentiel des européennes avec les 8 principales têtes de liste, dont Jordan Bardella, qui pourra préciser sa pensée sur la question des doubles frontières, avec effectivement Valérie Hayet, qui pourra et à qui on pourra poser la question justement de ce fédéralisme. parce qu'effectivement sur ce point il y a une résolution. Ça ne veut pas dire que pour l'instant c'est quelque chose qui rentre dans les faits, mais ça veut dire que c'est une des options envisagées pour l'avenir, avoir un peu moins de dossiers sur lesquels le droit de veto puisse être appliqué.
Oui, mais c'est une résolution qui est soutenue par les macronistes.
Alors il faut bien préciser, une résolution ça ne veut pas dire une loi.
Bien sûr, mais ils la soutiennent. Ils veulent aller dans ce sens-là. Ils veulent aller dans le sens dans lequel la France n'aurait plus la capacité à s'opposer en dehors des sujets fiscalité et affaires étrangères, n'aurait plus la capacité à s'opposer. Mais si vous voulez, leur vision des choses, ils ont du mal à l'assumer lorsqu'ils sont devant les Français. C'est l'effacement, on l'a déjà dit, de notre pays, c'est le fait de faire tomber les frontières, c'est le fait de donner moins de puissance à la France, c'est-à-dire que l'inverse de ce que nous souhaitons. Nous, on souhaite qu'il y ait des frontières pour se protéger, pas pour se rabougrir, pour se protéger, et notamment une double frontière, comme on l'a imaginé.
La double frontière, alors, puisque
ils
vous en parlez, Pierre, moi j'aimerais bien comprendre. Moi,
nous, on est contre la fiscalité européenne.
C'est-à-dire,
non, mais
effectivement, Gabriel Attal a expliqué que ce serait... Jordan Bardella a expliqué que ce serait deux lignes, en quelque sorte, comme quand on arrive à l'aéroport. Une ligne pour les ressortissants de l'Union européenne, une ligne pour les autres, mais ça marchera partout,
tout le temps.
Ça veut dire rétablir forcément des frontières physiques partout autour de la France.
Des frontières extérieures, d'abord. L'Europe doit se protéger. Aujourd'hui, c'est une passoire. On a sur notre liste, sur la liste de Jordan, il y a Fabrice Leggeri qui a été le directeur de Frontex et qui est parti parce qu'il a considéré qu'on ne lui permettait pas de protéger les frontières extérieures de l'Europe. Première mission, protéger les frontières extérieures de l'Europe en faisant effectivement, en repoussant les bateaux de migrants, je dis en secourant les gens qui tombent à la mer aussi. Parce que vous savez, nous on a une conscience sociale très prononcée. Quelqu'un qui tombe à la mer, on lui tend la main, on le nourrit, on le secourt, on le ramène dans son pays d'origine ou dans un autre pays, si un autre pays veut l'accepter.
On ne le laisse pas mourir. Abandonner.
Je veux dire, nous sommes des gens responsables mais fermes. Donc les frontières extérieures et puis Schengen, la réforme de Schengen, c'est ça la double frontière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous arrivez par l'Italie, vous arrivez par l'Espagne, vous êtes non européen. Eh bien grâce à Schengen, vous pouvez, si vous arrivez dans un pays européen, vous balader sans contrôle dans l'ensemble des pays européens. Donc nous disons, il y aura des contrôles avec tous les moyens. Pas uniquement, j'allais dire, des moyens physiques en hommes, mais également des moyens en contrôle. On peut imaginer.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y aura pas forcément des guichets partout.
Et bien sûr, il n'y aura pas des douaniers, même si d'ailleurs la suppression des 6000 douaniers par la droite, parce qu'on entend toujours M. Bellamy pleurnicher, etc. Enfin, il doit assumer lui aussi le bilan des années où sa famille politique a été au pouvoir. Donc des douaniers, évidemment, mais aussi des contrôles de frontières avec tous les moyens aujourd'hui qu'une société moderne peut avoir et qui seront sanctionnés. C'est-à-dire que si vous avez franchi les frontières intérieures de votre pays sans y être autorisé, eh bien vous serez sanctionné. Ce n'est pas du tout la logique qu'il y a aujourd'hui. Ça n'existe pas aujourd'hui.
Et sur tous ces points-là, les différents candidats, têtes de liste des européennes, pourront justement en débattre ensemble. Ce sera donc lundi soir. Sébastien Chenu, à l'instant, Gabriel Attal accorde une interview à l'agence France Presse sur la question de la justice des mineurs. C'est l'une des réponses à ce qui s'est passé, les émeutes de juillet dernier. Et il dit même que cette réponse qu'il va apporter, c'est, je le cite, « la seule bonne manière de répondre au RN ». C'est donc directement à vous qu'il s'adresse avec cette loi qui va être plus ferme vis-à-vis des mineurs.
Pas vraiment. En fait, bon, ils sont obsédés par le RN, on a bien compris. Leur obsession, c'est le RN. C'est pas de rétablir la sécurité pour les Français, c'est pas de donner davantage de pouvoir d'achat aux Français, c'est pas de protéger notre pays, c'est s'opposer au Rassemblement National.
Là, je veux dire, avec cette réponse...
Non. Mais la réalité, c'est que cette réponse, elle est très faible. Comme d'habitude, à petite réponse, petit résultat. Il passe à côté, à mon avis, de deux options excessivement...
Attendez, on va regarder ce qu'il propose. Gabriel Attal, il propose d'abord une comparution immédiate possible pour un mineur de 16 ans. Aujourd'hui, il fallait avoir 18 ans pour passer en comparution immédiate. Il promet d'ailleurs une loi avec un vote d'ici la fin de l'année. Ensuite, il propose des stages courts en foyer jusqu'à 15 jours en foyer relativement ouvert, mais dans lesquels ils pourront avoir des échanges, notamment avec des figures d'autorité, c'est ce qui est écrit. Et puis, troisième volet, les deux parents devront payer les dégâts de leurs enfants mineurs. Là, c'est une réponse aussi à la question de l'absence des pères, les deux parents, et pas juste la mère, puisque la plupart des cas, c'est la mère avec qui ils sont. Et une sanction scolaire pour les élèves qui perturbent les cours, des points en moins au brevet ou au bac.
Bon, tout ça est très faible. Ce que je sais que ces histoires de rencontres avec des figures d'autorité, c'est quoi? C'est rencontrer Éric Dupond-Moretti, c'est ça une figure d'autorité en Macronie?
Ce sont des policiers moi, des gendarmes, je vous dis, des juges.
Il passe à côté de trois enjeux majeurs. D'abord, l'audience unique. L'audience, elle doit être immédiate, vous le dites, mais elle doit être aussi unique. Aujourd'hui,
c'est pas
vous...
dit, hein, c'est le Premier ministre.
Oui, pardon. Ouais. Mais aujourd'hui, vous passez en audience d'abord concernant vos faits, puis vous repassez quelques mois après concernant la sanction de ces faits-là.
C'est la question de la distinction, effectivement, de la justice. Donc, ça, c'est la dernière loi qui remonte seulement à il y a 2 ans, hein, de justice des mineurs, dans laquelle on a distingué deux choses. La comparution la plus rapide possible pour vous dire vous êtes coupable, mais on vous dira dans un deuxième temps quelle est la sanction.
Je pense qu'il faut revenir là-dessus. C'est d'ailleurs une demande d'un certain nombre de magistrats. Je pense notamment, je crois, à Force Ouvrière, la magistrature, qui ont fait la demande, une audience unique. La deuxième chose, c'est évidemment le débat sur l'âge de la majorité pénale, abaissé à 16 ans. Le gouvernement ne veut pas ouvrir ce débat.
Il ne veut pas ouvrir ce débat qu'on appelle le débat sur l'excuse de minorité.
Oui, mais c'est important. Nous considérons aujourd'hui, il suffit de regarder les chiffres, qu'il y a beaucoup de mineurs qui sont mis en cause. Si on n'ouvre pas ce débat, alors on passe à côté. Et puis, il y a la responsabilisation des familles. Là aussi, le gouvernement refuse d'ouvrir ce débat, c'est-à-dire la suspension totale ou partielle, définitive ou temporaire d'un certain nombre d'allocations. Nous nous proposons d'ouvrir ce débat. Ça n'a jamais été tenté dans notre pays. Il y a des élus de tous bords qui y sont favorables. Eh bien, nous considérons que l'audience unique, la responsabilisation des familles et la majorité pénale à 16 ans, qui sont trois vecteurs excessivement importants du rétablissement de l'autorité, mais aussi de la sanction par rapport à la délinquance des mineurs, eh bien, le gouvernement passe à côté. Donc, petite proposition, ils auront de petit résultat.
Mais précisément, Sébastien Chenu, on a bien compris que vous voudriez aller beaucoup plus loin, mais qu'il y a quand même des points dans ces propositions qui vont quand même dans le même sens que vous, et notamment cette idée de comparution immédiate possible pour un mineur dès 16 ans. Il dit qu'il y aura une loi et un vote d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous le voterez? Non, même si ça ne va pas assez loin,
mais bien
c'est
sûr,
quand même
mais
un pas dans la même direction.
Nous avons, voté la loi sur l'immigration, qui était une toute petite loi, nous l'avons dit, et qui n'a pas eu beaucoup d'effet. Mais tout ce qui peut un tout petit peu améliorer les choses, nous le votons, parce que nous ne sommes jamais pour la politique du pire, mais simplement,
donc
je vous
le répète.
Donc
c'est mieux que rien, vous voterez pour.
Voilà, c'est mieux que rien, mais sur une échelle de 0 à 10, on est à 1, et nous on propose qu'on soit à 10. Donc vous voyez, la marge de progression, elle est importante. Nous avons réfléchi depuis longtemps avec Marine Le Pen sur tous ces sujets-là. Le gouvernement n'ose pas s'attaquer, n'ose pas avoir ce choc à la fois de responsabilité, d'autorité. On le voit, ils n'assument pas leurs résultats, ils n'osent pas aller au bout, et donc la réponse qui est proposée, eh bien, n'apporte pas les résultats escomptés.
Alors, on a regardé ce qui s'était passé dans les prisons avec ce récit assez hallucinant de la réalité du séjour en prison et notamment à la prison de la santé de Mohamed Amra. Mohamed Amra qui est donc toujours en cavale, qui est ce prisonnier qui a été libéré par des complices dans une libération sanglante il y a donc 9 jours. Sa vie en prison, il avait jusqu'à 9 téléphones portables, réussissait à se faire livrer un certain nombre de repas, se faire livrer du cannabis, il disposait d'une chicha et il continuait, semble-t-il, à mener ses affaires, y compris parfois l'enlèvement d'un homme commandité depuis la prison, voire même suivi en direct par téléphone portable. Sébastien Chenu, le secrétaire général du syndicat pénitentiaire UNSA Justice, dit « Tout le monde a l'air surpris de découvrir que nos prisons sont des passoires ».
Oui, enfin nous n'en sommes pas surpris, d'abord parce que les agents de la pénitentiaire qui sont bien méritants nous le disent. Les députés du Rassemblement National visitent souvent les prisons dans leur circonscription, sont en contact de la pénitentiaire qui nous le disent. D'abord, ils sont mal rémunérés, ils sont souvent en danger, et les prisons en tant que telles, à partir du moment où on a laissé tomber les fouilles obligatoires, à partir du moment où il y avait toutes ces politiques de transfèrement qui pourraient être remplacées parfois par des visios avec des magistrats, eh bien tout ça, ça fait des années que ça dure. Et puis, moi je le vois à la prison de Valenciennes, il y a les détenus qui reçoivent depuis l'extérieur au feu rouge devant la prison des colis qui sont balancés au-delà des murs.
C'est exactement ça, c'est les jeteurs, comme on dit, qui jettent donc les colis au-dessus de
la prison
de
Valenciennes, vous êtes au feu rouge devant la prison, vous les voyez faire. Donc il faut des filets de sécurité qui empêchent justement qu'on puisse jeter ça, qui empêchent l'arrivée de drones, qui pourraient même empêcher dans des tentatives d'évasion des arrivées d'hélicoptères.
Mais vous défendez immédiatement, Sébastien Chenu, les gardiens de prison, est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas une forme de responsabilité?
Ah non, mais les gardiens de prison sont victimes, ils sont empêchés, ils sont entravés. D'abord, leur
mais vous feriez quoi
statut,
de mieux
comme, leur rémunération.
Si eux n'y arrivent pas, alors
d'abord,
qu'ils souhaitent.
D'abord, je vais vous dire,
c'est interdit, ils ne souhaitent pas que ces téléphones rentrent.
Il faut faire baisser la population carcérale. Il y a plus de 100% dans toutes les prisons françaises.
Ah, vous voulez mettre moins de monde en prison?
Non. Non, non, il faut plus de place. C'est pas moins de monde, c'est plus de place. Il faut arrêter les aménagements de peine. Il faut plus de place. Il y a des gens qui n'ont rien à y faire. 22,5% de délinquants étrangers dans nos prisons. C'est-à-dire que vous avez quasiment un quart des places qui sont occupées par des étrangers, qui n'ont rien à y faire. Vous avez aussi des gens qui sont dans des situations de détresse psychologique, qui sont des malades mentaux, qui sont incarcérés. Leur place n'est pas en prison. Emmanuel Macron avait indiqué qu'il construirait 15 000 places de prison. C'était déjà très faible. On est très très, très loin de ce résultat.
Mais vous en voudriez combien ?
Mais il faut aller jusqu'à 30 000 places de prison dans notre pays. C'est un objectif qu'on doit essayer d'atteindre. Simplement, on en est aujourd'hui très loin. La pénitentiaire est maltraitée. Les moyens techniques que je vous ai cités ne sont pas mis en avant. Mais ça fait des années que ça dure. On ne le découvre pas. Je veux dire, on le découvre malheureusement avec monsieur Amra qui est en fuite aujourd'hui et qui a tué deux agents de la pénitentiaire. Mais parce que c'est un fait sanglant, épouvantable. Mais les agents de la pénitentiaire crient à corps et à cri depuis des années sur leur situation et sur la situation de nos prisons. Et puis il y a la question de la responsabilité politique. Enfin, je veux dire, à quel moment le garde des Sceaux assume aussi ses responsabilités en considérant que tout va bien, que il faut attendre des faits aussi importants que ceci pour pouvoir se remettre en cause et notamment sur les visios pour éviter
des transferts. Est-ce que ça veut dire que vous allez jusqu'à dire que Éric Dupond-Moretti doit en tirer les conséquences,
mais
doit démissionner ?
Il y a bien longtemps qu'Éric Dupond-Moretti aurait dû tirer les conséquences. Il n'est pas à sa place. Il refuse de mener une politique qui soit ferme. D'ailleurs, quand on a un garde des Sceaux qui arrive dans les prisons et qui est acclamé par les prisonniers parce qu'il est, il se revendique lui-même comme l'avocat des prisonniers, l'avocat des voyous, eh bien, vous ne pouvez rien attendre de lui. Je veux dire, à quel moment, avec la situation que nous connaissons dans la pénitentiaire, le garde des Sceaux peut-il continuer à se maintenir et
vous
à donner des leçons ?
Vous appelez donc à la démission.
Mais bien sûr, mais ça fait bien longtemps qu'on appelle à la démission d'Éric Moretti, qui, je vous le redis, n'a rien à faire place Vendôme.
Sébastien Chenu, Emmanuel Macron est en train de rentrer de Nouvelle-Calédonie. Il y est resté une journée, il a rencontré tous les acteurs locaux. Il dit que ça ne doit pas être le Far West et il laisse ouverte l'idée qu'il faut repousser le Congrès pour appliquer la loi de dégel du corps électoral. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que ça va permettre de retrouver le calme ?
Non mais un petit tour et puis
on va lever. Alors je précise pour
ceux
qui
nous écoutent
sur RMC, vous levez les yeux au ciel.
Emmanuel Macron n'a pensé ni le jour d'après ni le jour d'avant. Le jour d'avant, Marine Le Pen lui avait dit il y a quelques mois, elle l'avait dit à Gérald Darmanin, ce que vous faites en acceptant le dégel du corps électoral que nous avons voté parce que nous sommes favorables à cela, mais sans un accord global qui soit institutionnel, politique, économique, amènera à des violences. Ils n'y ont pas pensé, ils ont refusé de le prendre en considération. Ils n'ont pas pensé au jour d'avant. Le jour d'après, c'est ce que Marine Le Pen propose. Comme Emmanuel Macron dit, et j'ai repris ses propos.
Enfin, le jour l'objectif... d'après-après-après-demain,
oui,
elle propose un référendum dans 40 ans.
Oui, enfin, Emmanuel Macron, l'objectif est un nouveau référendum. Voilà ce qu'il a dit concrètement hier. Donc, il dit, il s'aligne sur les positions de Marine Le Pen. La réalité, c'est que
Marine Le Pen qui précédemment disait que le référendum de 2023 était un référendum
mais
définitif.
Parce que la situation évolue beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Parce que la situation économique, et vous le voyez bien, avec la filière du nickel
le
qui
dernier,
est en train de s'écouler. Parce qu'avec le départ de 10 à 12 000 de nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie, la situation s'est aggravée. Donc il faut bien prendre les choses en main et tracer des
finalement,
perspectives.
Finalement, c'est quand même étonnant parce qu'en fait, vous critiquez Emmanuel Macron et ensuite vous dites, il en arrive à nos positions.
Vous je vous dis simplement, il n'a rien anticipé, il n'a pas traité ni la méthode, ni le timing, ni le sens du temps plutôt avec anticipation et sur le fond, il a refusé de prendre en considération nos propositions. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu quand Marine Le Pen a dit il faudra, pour donner des perspectives, redonner la parole aux Calédoniens d'ici 40 ans. Eh bien, Emmanuel Macron dit la même chose. Il dit il faudra un nouveau référendum à un moment ou à un autre. Donc oui, il s'aligne sur nos positions. Eh bien, dans ces cas-là, j'ai envie de dire, laissez faire ceux qui connaissent ce sujet-là. Marine Le Pen connaît le dossier des Outre-mer. Elle a une infinie tendresse, un infini respect pour les Outre-mer. Nous savons ce qu'il faut faire. C'est un dossier sensible, difficile. Emmanuel Macron l'a traité avec désinvolture.
Sébastien Chenu, vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Cette loi a donc été votée. Il faut un congrès, normalement, pour qu'elle passe en application. Si, comme le laisse entendre Emmanuel Macron, ce congrès est repoussé, vous direz, c'est bon, on attend.
Mais nous avons dit que nous n'étions pas à 6 mois. Qu'est-ce que c'est que cette volonté de brutaliser
les Calédoniens ? Donc sur tous ces points, vous êtes d'accord avec lui, finalement ?
C'est Emmanuel Macron qui, parce qu'il n'avait pas réfléchi, est en train de s'aligner sur nos propositions. Que de temps gagné si on avait écouté Marine Le Pen encore sur le dossier calédonien.
Merci Sébastien Chenu d'être venu répondre à mes questions ce matin. Député du Nord, vice-président du Rassemblement National. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.